que mais ordena. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Minuit dans le siècle, le podcast qui prend au sérieux la possibilité du fascisme et la nécessité de l'antifascisme. Un podcast disponible sur le site Spectre, spectremedia.org, avec beaucoup d'autres podcasts passionnants et sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Dans cet épisode, on va parler à nouveau des électeurs et électrices du FN, devenu RN, dans la continuité de deux précédents épisodes de ce podcast que je vous invite à écouter ou à réécouter, l'un avec Violaine Girard et l'autre avec Benoît Coquart. On va donc parler de la base sociale et électorale de l'extrême droite, cette fois avec le sociologue et politiste Félicien Faury, à partir de son livre important, paru aux éditions du Seuil et intitulé « Des électeurs ordinaires, enquête sur la normalisation de l'extrême droite ». Un livre que je vous recommande chaudement parce qu'il propose une description extrêmement fine des hommes et des femmes qui votent plus ou moins régulièrement pour le FNRN. Il nous donne ainsi accès aux visions du monde et aux catégories de perception de cet électorat, à leur manière de voir, de penser, d'agir, de sentir, de se positionner dans le monde social. Et en mobilisant les acquis de la sociologie politique, de la sociologie des classes sociales, mais aussi de la sociologie du racisme et des rapports sociaux de race, ce livre propose une série d'interprétations que j'ai trouvées personnellement lumineuses et à mon avis incontournables si on veut comprendre la progression et la normalisation de l'extrême droite dans la société française. Bonjour Félicien.
Bonjour.
Alors, une question habituelle dans ce podcast, quand j'invite des sociologues ou des politistes, pourquoi cette enquête et plus largement, pourquoi avoir mené une recherche sur l'extrême droite et en particulier ici sur sa base sociale et électorale ?
Merci pour l'invitation d'abord. Effectivement, le geste de départ de cet ouvrage, c'était de comprendre ce qu'on appelait la normalisation de l'extrême droite, la droitisation de la société, mais en m'intéressant non pas au champ politique, au champ médiatique, à ces mutations et la manière dont l'extrême droite et notamment le Rassemblement national y étaient présents. J'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de travaux là-dessus, justement. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est cette normalisation par le bas, en quelque sorte, cette normalisation sociale, c'est-à-dire comment, dans certains territoires, au sein de certains groupes sociaux, au sein de certains entourages concrets, en fait, le vote RN devenait une option électorale possible, dissible et de plus en plus légitime, voire valorisée. Et c'est pour ça que j'ai privilégié l'enquête de terrain auprès du coup de ces électeurs et électrices que j'appelle ordinaires, c'est-à-dire qui ne sont pas professionnalisés politiquement, c'est-à-dire non pas s'intéresser à l'extrême droite du haut en quelque sorte, mais pas non plus uniquement aux élus et aux militants de terrain, mais aussi à ces électeurs et électrices.
Et alors, comment tu as mené cette enquête ? Est-ce que tu peux nous décrire ce que tu as fait pour aboutir, finalement, au résultat que tu présentes dans ce livre ?
Assez simplement, quelque chose d'assez classique dans l'enquête de terrain. Je me suis installé dans un territoire de la région PACA. Et je me suis intégré au tissu associatif, au tissu commerçant. Il y a certaines attaches personnelles aussi qui ont pu être activées. Et j'ai mené beaucoup de conversations au début, en fait, avec tout un ensemble d'habitants et d'habitantes. Et j'ai fonctionné par ce qu'on appelle boule de neige aussi. C'est-à-dire que certaines personnes, je leur demandais le contact de certains de leurs amis, de leurs collègues, de proches à eux. Ce qui m'intéressait, c'était justement de retrouver, comme je l'ai dit, les entourages concrets de chaque électeur et électrice, parce que c'est ce qu'on essaie de faire généralement en sociologie du vote, en tout cas la sociologie du vote qu'on appelle qualitative, c'était retrouver avec qui votent les gens, parce qu'on vote jamais seul au fond, on vote toujours avec ses proches, avec ceux et celles qui comptent, et c'était ça moi qui m'intéressait. D'autant plus avec cette problématique de la normalisation. Encore une fois, c'est pas seulement les médias, c'est pas seulement les discours politiques, même si ça compte beaucoup, mais c'est aussi les discours des personnes autour de vous qui justement font autorité, qui ont une importance pour vous. Et donc c'était ces logiques affinitaires que moi je recherchais.
Oui, il y a une longue tradition en sociologie politique d'analyse du vote de ce type-là.
Absolument, l'idée c'est de... Les enquêtes par sondage, elles ont leur intérêt et moi c'est des enquêtes que je mobilise beaucoup au fond, je me suis beaucoup nourri de ces enquêtes quantitatives, mais il y a toujours un biais qu'on appelle atomistique, c'est-à-dire qu'on par le sondage, en cherchant la représentativité justement, on extrait les individus du contexte dans lequel ils votent concrètement. Et ça me paraît toujours important de leur enseigner. C'est pour ça que voilà, je pense que c'est, l'enquête de terrain peut être assez complémentaire à ce qu'on connaît par ailleurs dans les enquêtes quantitatives. Moi, au fond, ce qui m'intéresse, c'était comment vivent les variables concrètement. C'est-à-dire qu'on connaît certaines variables lourdes du vote RN, on connaît certaines motivations qui reviennent beaucoup dans les enquêtes préélectorales ou post-électorales. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était partir de ça, partir de ces résultats connus et de voir comment ça se manifestait concrètement dans la vie des gens et comment les individus en venaient à activer certaines dispositions dans le vote RN.
Et alors, c'est qui socialement ces électeurs et électrices que tu as rencontrés? Ils font quoi dans la vie? Dans quel type de territoire ils habitent? Quelle est leur place dans les rapports sociaux au sens multiple du terme, peut-être rapports sociaux justement?
Ça, c'est le deuxième choix un peu principal, je pense, de mon enquête. C'était d'aller travailler dans le sud-est de la France, d'aller faire mon enquête dans le sud-est de la France. Il me semblait au fond que dans les discours publics, mais aussi un peu dans la recherche en sciences sociales sur le vote RN, il y avait en tout cas une focalisation et peut-être une surfocalisation sur le vote RN ouvrier, en fait, et notamment le vote RN du Nord, d'une classe ouvrière frappée par la désindustrialisation, par les délocalisations. Avec, je l'ai dit, peut-être une surfocalisation au sens où il y a aussi beaucoup d'abstention, on le sait, dans le vote ouvrier. Et donc, faut peut-être pas exagérer l'importance de l'implantation du RN au sein de la classe ouvrière. Même s'il ne faut pas non plus raconter d'histoire, en fait. Et il y a beaucoup d'ouvriers actuellement qui votent pour le RN. Mais j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de travaux là-dessus et on oubliait toujours un peu une autre partie de l'électorat très très importante qui a toujours été historiquement cruciale pour le Front National et maintenant le Rassemblement National et qu'il est toujours crucial et notamment pour les élections européennes. Là par exemple, la question des petites classes moyennes par exemple, c'est très important parce que c'est des personnes qui se mobilisent davantage. Et donc moi je voulais travailler sur... cet électorat d'employés au sens de l'INSEE, de professions intermédiaires, de petites classes moyennes, donc artisans, commerçants, métiers de la sécurité. Et c'est dans le sud-est, même s'il ne faut pas caricaturer la distinction nord-est, sud-est à mon sens, mais en tout cas ce qu'on retrouve en tendance, c'est justement des différences de classe. C'est-à-dire on a d'un côté un électorat plutôt précaire et populaire du RN, mais aussi un autre type d'électorat, davantage stabilisé, avec, comme je l'ai dit, des classes populaires stables, c'est-à-dire qui ont un statut professionnel relativement protégé, qui sont souvent propriétaires de leur logement, et des petites classes moyennes également, qui continuent d'être très importants pour le Rassemblement National en termes de résultats électoraux. Et c'est plutôt ce type d'électeurs et d'électrices que moi j'ai sur lesquels j'ai enquêté. Avec l'idée, il me semble, c'est que autant dans le vote ouvrier RN, ce qu'on retrouve, c'est qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur le marché du travail, avec la peur du chômage, la peur des fermetures d'usines, par exemple, etc. Moi, ce que je retrouve, si on veut trouver un peu un critère unificateur dans les discours que j'ai pu récolter en entretien, c'est le fait que les incertitudes sociales et ce que j'appelle les concurrences sociales racialisées ne se jouent pas sur le terrain de l'emploi. Concrètement, ce n'est pas des gens qui ont peur directement de se retrouver au chômage. Et par contre, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de préoccupations socio-économiques, pas de préoccupations matérielles. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aussi retrouvé de l'opposition entre un RN du Nord social versus un RN du Nord identitaire. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec cette distinction parce que ça sous-entendrait que les personnes dans le Sud-Est ne me parlent pas d'économie. Or, ce n'est pas du tout le cas. C'est même plutôt l'inverse. En fait, ils passent leur temps. Ces électeurs et ces électrices à me parler de leurs préoccupations économiques, mais celles-ci ne vont pas se déployer autour de la question de l'emploi, mais autour d'autres questions que sont le logement, la redistribution,
et la fiscalité.
La fiscalité, exactement, avec un ressentiment.
Les impôts et pour qui, quoi.
Comment payer les impôts, les charges sociales, parce qu'il y a aussi des artisans, commerçants, parfois aussi les aides sociales auxquelles on estime avoir droit, mais on n'en a pas assez, etc.
Oui, l'accès aussi au logement social, par exemple, peut être un enjeu.
Absolument, peut être un enjeu. Donc voilà, tous ces enjeux résidentiels, fiscaux, éducatifs également, peut-être on y reviendra. Voilà, tous ces enjeux-là qui sont très très importants, qui sont matériels et qui, je pense, définissent un peu les préoccupations économiques de ces électeurs.
Oui, on va y revenir. Alors, on dit souvent que l'électorat du FNRN, est, en sociologie en tout cas, est un conglomérat. Alors, je suis toujours assez circonspect par rapport à cette affirmation, parce que c'est vrai, mais c'est aussi, en fait, c'est un truisme. C'est assez évident. À partir du moment où un parti rassemble des millions d'électeurs ou d'électrices, et tend à agglomérer des positions de classe qui sont relativement hétérogènes, plus ou moins d'ailleurs, des opinions, des sensibilités qui sont variées. Ce qu'il faut voir, et ce que tu montres très bien, il me semble, c'est que c'est finalement ce qui unifie au moins partiellement, peut-être là encore pas l'ensemble de l'électorat du FNRN, quoique, ce qui unifie ce conglomérat. Bon. Ce qui constitue peut-être son ciment idéologique. Alors, idéologique, pas ici nécessairement en termes de programme électoral, parce que finalement, on sait bien que les gens connaissent assez peu les programmes dans leurs détails, etc. Ils connaissent parfois une ou deux ou trois mesures et encore. Mais peut-être l'idéologie au sens de vision du monde, de manière de voir, de percevoir le monde et ses divisions, en quelque sorte. Et là, on arrive, à mon avis, à l'apport majeur de ton livre, qui est de mettre au centre la dimension raciale et raciste du vote FNRN. Et de ce point de vue, bon, personnellement, j'étais très heureux de lire ton livre parce que justement, cette esquive de la question du racisme, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué à la lecture de travaux, y compris de chercheurs que j'apprécie par ailleurs, hein, pour d'autres travaux, mais qui avaient tendance à minorer la dimension raciale et raciste dans le vote FNRN. J'avais essayé d'ailleurs d'en parler dans La possibilité du fascisme, sur un plan un peu théorique, disons. Toi, tu vas plus loin, notamment parce qu'à partir de ton enquête, tu montres très bien l'ancrage et la cohérence, finalement, du vote FN-RN sans, justement, opposer les enjeux de classe et les enjeux raciaux, quoi. Avec, d'un côté, l'idée qu'il y aurait le social, le vrai social, la question sociale, le travail, la question de la répartition des richesses, puis de l'autre, le sociétal, ici, dans le sens de questions un peu mineures, secondaires, le genre, la race, etc. Alors, justement, là, peut-être, ça peut être important pour introduire la question de montrer un peu la divergence que tu peux avoir avec justement ces approches, ces travaux qui sont assez variés. D'ailleurs, il y a des travaux plus ethnographiques, et il y a des travaux plus quantitatifs comme celui récent de Julia Cagé et Thomas Piketty. Alors, comment tu définis justement par rapport à ces travaux et comment tu as construit un peu ta problématique en quelque sorte, hein, ta manière de problématiser l'objet de recherche vote pour l'extrême droite?
Oui, absolument. Il y a une des impulsions du travail scientifique, il me semble, c'est parfois aussi, comment dire, l'agacement. C'est-à-dire que moi, avant ce livre, il y a eu une thèse. Donc, j'ai commencé ma thèse en 2016, où j'ai commencé à travailler sur le Rassemblement national et notamment son électorat. Et donc, ensuite, j'ai soutenu ma thèse et j'ai refait un gros terrain en 2022 pour les élections présidentielles et législatives. Et tout au long, justement, de mon travail, effectivement, je venais d'une tradition qu'on pourrait dire bourdieusienne, en fait, et qui privilégiait l'ethnographie, l'enquête de terrain, pour essayer de voir comment, justement, les questions de classe se manifestaient concrètement, de manière localisée, dans la vie des individus. Et il y a tout un ensemble de travaux sur le vote RN qui, en fait, voilà, qui m'ont beaucoup nourri et, comme tu l'as dit, sont absolument passionnants, mais avec toujours ce réflexe, en quelque sorte, de mettre en avant les questions de classe, mais avec pour inconvénient d'euphémiser, et voire d'écarter, en fait, la dimension raciste et raciale de ce vote, avec l'idée qu'au fond, ce n'est pas le plus intéressant. Je caricature sans doute un peu, mais en gros, cette question était un peu évacuée pour arriver au vraies questions plus profondes et jugées plus aussi intéressantes à étudier, qui étaient les questions de classe. Moi, donc, j'ai commencé à travailler sur le vote RN un peu avec cette littérature en tête. Et en fait, très concrètement, il y a déjà eu un enjeu empirique qui était que les récits que je récoltais étaient racialisés, avec beaucoup d'énoncés proprement racistes, qui étaient inévitables, en fait, incontournables empiriquement. C'est-à-dire que si on voulait ne pas en parler, concrètement, il allait falloir amputer mes données sérieusement. Et deuxièmement, c'était mise en équivalence, ça donnait lieu à des chaînes d'équivalence, comme dit Stuart Hall, avec les questions de travail, de chômage, de pouvoir d'achat, etc. Et donc, ce n'était pas pour moi aisément séparable, les questions de classe et les questions raciales. Et surtout, voilà, je pense que si on enlevait cette dimension-là, on ne pouvait comprendre qu'à moitié le vote RN. Et donc, j'ai commencé à travailler ces questions, à lire, tout simplement, et j'ai découvert ce continent qu'est la sociologie du racisme, des processus de racialisation, des rapports sociaux de race. Sachant que j'ai commencé aussi à travailler dans un contexte scientifique, mais aussi politique, où la question raciale avait été davantage mise en lumière, et avec aussi des controverses, encore une fois, à la fois scientifiques, mais aussi politiques, et qui forcément vous influencent en tant que jeune chercheur qui travaille sur ces questions. Et en découvrant en fait cette sociologie, ça m'a un peu sauvé en quelque sorte, parce que je me suis dit, en fait, premièrement, c'était une sociologie qui insistait sur le fait que le racisme, c'est un fait social multiforme, qui ne se trouve pas du coup uniquement à l'extrême droite, mais qui se retrouve dans tout un ensemble de milieux sociaux et en fait qui est transversal à notre société, y compris politiquement. Et avec justement cette idée de, il ne faut pas seulement regarder l'extrême droite, mais aussi regarder la société de la manière dont elle fonctionne, non pas aux extrêmes, mais en son centre, et comment le racisme y occupe justement une place centrale. Mais du coup, pour moi, l'enjeu, c'était, étant donné que le racisme est multiforme, il faut décrire du coup ces formes-là. Et il faut s'interroger sur la spécificité du racisme tel qu'on le retrouve chez ses électeurs et ses électrices d'extrême droite. Et donc c'est à la fois comment la sociologie du racisme pouvait m'aider à comprendre les visions du monde de ses électeurs, mais aussi, et ça je pense c'est un autre apport de mon travail, en tout cas j'espère, c'est comment le type de racialisation que l'on trouve chez ses électeurs et ses électrices peut aider à comprendre aussi comment fonctionnent les processus de racialisation en France et comment, quelle est leur fonction en quelque sorte au sein des rapports sociaux de race. Donc il y a aussi une contribution à cette littérature. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler, et avec vraiment cet enjeu de prendre au sérieux la question raciale. Et découverte avec une autre question de recherche plutôt qui m'a été apportée à la lecture de cette littérature, c'est que le racisme, c'est pas seulement une attitude, c'est pas seulement un ensemble de croyances, mais c'est aussi donc une relation de pouvoir, et derrière ça un enjeu de position. C'est-à-dire que ce qui devenait intéressant, du coup, c'est chercher à positionner ces électeurs, ces électrices, à la fois au sein des rapports sociaux de classe, mais aussi au sein des rapports sociaux de race, et plus largement au sein des inégalités ethno-raciales, et en articulant les deux. Et donc voilà, c'était cette question un peu de la position à l'articulation de différents rapports sociaux qui m'a un peu obsédé au fond, que j'ai cherché à faire dans cet ouvrage avec... peut-être encore une fois, on en reparlera, mais il y a Solène Brun, par exemple, la chercheuse qui parle d'espace social racialisé. Moi, c'était ça, c'est où ils se positionnent, ces électeurs, ces électrices, au sein de cet espace social racialisé. Et juste pour terminer, effectivement, la conséquence de toutes ces questions de recherche qui ont émergé, c'était on ne peut pas parler que des questions de classe. Et c'est au moment où j'étais au milieu de l'écriture de ce livre qu'il y a eu l'ouvrage de Julia Cagé et Thomas Piketty qui est sorti, et qui m'a un peu conforté dans la nécessité d'insister sur ces questions. Parce qu'on a ici donc deux économistes qui, dans leur travail, qui portent pas seulement, mais notamment sur le vote RN, choisissent de mettre en avant les questions de classe, jusqu'à donc euphémiser, et là pour le coup vraiment évacuer, la dimension raciste du vote RN, avec cet argument un peu étrange de dire que le vote RN rural ne serait plus animé par des sentiments anti-immigrés, alors que par exemple avec le vote Zemmour ça serait le cas. Et en fait ça traduit, il me semble, une forme de... Parce qu'il peut y avoir un mépris de classe qui fait que l'on... Comment dire ?
Il peut y avoir un mépris de classe qui s'exprime dans le fait de dire « Regardez, ces gens, ils n'ont rien compris, ils ne comprennent rien, c'est des beaufs racistes, etc. Bon. » Et une autre attitude inverse, symétrique, qui consisterait, de manière à mon avis un peu condescendante et paternaliste, à finalement à mettre ça sous le tapis, et les opinions xénophobes ou anti-immigrés, etc. Et de dire finalement, on va pas chercher à en rendre raison, on va pas en chercher à en rendre compte, parce qu'y compris, ça désespérait un peu Billancourt. Enfin, pour prendre une expression classique, il y a aussi un peu de ça, je trouve, dans la sociologie qui esquive la question, la dimension raciste des votes à l'extrême droite.
Ouais, il faudrait être naïf pour penser qu'il n'y a que des enjeux épistémologiques et de description sociologique derrière ça. En fait, il y a des enjeux normatifs et politiques avec, comme tu l'as très bien dit, c'est d'un côté, moi, c'est des choses qui m'ont beaucoup interrogé dans ce livre et dans la manière dont j'écrivais, en fait, je rendais compte de mon enquête, c'est que d'un côté, effectivement, il peut y avoir du mépris de classe, il y en a, à considérer que le racisme serait un attribut uniquement populaire. Mmh. Et donc, et là, avec le recrutement encore majoritairement populaire de l'électorat RN, bah, ça donne du grain à moudre. Bah oui, effectivement, le peuple est raciste et du coup, il vote pour le Rassemblement National.
Mais l'électorat de Zemmour, justement, a permis, enfin, le vote de Zemmour dans les beaux quartiers, dans l'Ouest parisien ou dans certaines villes riches de la région PACA, par exemple, a bien montré que les classes populaires n'avaient nullement le monopole du racisme, y compris dans ses formes les plus brutales.
Absolument. C'est-à-dire que, bah là, d'un point de vue de la transversalité des affects racistes, les élections de 2022 étaient très intéressantes, avec justement ce vote Zemmour qui a révélé qu'une part de la bourgeoisie, même s'il peut y en avoir aussi via d'autres formes moins explicites, moins brutales, mais en tout cas, il y avait des formes de racisme brutal, y compris au sein des quartiers les plus bourgeois de France. Et donc, effectivement, on avait d'un côté un mépris de classe qui considérait à associer le racisme uniquement au populaire, en gros, et avec un problème inversé qu'on retrouve beaucoup plus à gauche, notamment chez les intellectuels de gauche, avec une forme effectivement de condescendance, de dire bah les classes populaires blanches seront en quelque sorte immunisées contre ce phénomène qu'est le fait social raciste qui traverse en fait la société en son entier. Et avec l'idée compréhensible hein, de ne pas rajouter une pièce dans la disqualification dont font l'objet de manière générale les groupes populaires. C'est cette tension qu'il s'agit de travailler en à la fois reconnaissant qu'il y a une parole raciste au sein des groupes qui votent RN, ce qui me semble très important, y compris politiquement, là encore, je pense qu'il y a un enjeu à ne pas taire justement et à ne pas rendre compte de cette parole raciste lorsqu'elle émerge, et en même temps toujours rappeler que le racisme, c'est un fait transversal et que du coup, le racisme explicite souvent que moi, j'enregistre dans les récits et dont je donne certains aperçus dans le livre, que ce n'est qu'une forme parmi d'autres d'expression du racisme et de participation au processus de racialisation. Et derrière ça, l'enjeu, c'est de toujours, ce que j'ai essayé de faire dans cette enquête, c'est de toujours, à partir des énoncés et des affects que je récoltais au niveau individuel, de toujours le replacer dans des processus de racialisation beaucoup plus collectifs. Et qui ne... et donc le racisme que je récolte, enfin dont je rends compte, n'est possible que dans une structure collective qui permet à ces énoncés de s'exprimer.
En plus, il peut y avoir une sorte d'incompréhension par rapport à ce que tu défends, au sens où souvent le racisme s'est perçu comme une simple justement opinion, qui n'est pas qu'une opinion, on le dit souvent, c'est aussi un délit, etc. Mais un peu une vision superficielle du racisme. Et ne pas voir que finalement le racisme, c'est tout, la race au sens des rapports sociaux de race, organise la société au moins en partie, et notamment détermine en partie la distribution des individus dans la structure de classe. Et donc, par ailleurs, ce n'est pas juste d'un côté les rapports sociaux de classe, de l'autre côté les rapports sociaux de race, c'est que la position dans les rapports sociaux de race va en partie, et en bonne partie parfois, influer sur le type de profession auquel on va pouvoir accéder, donc le type de salaire, et donc le type de logement, le type de territoire, etc. Et en quelque sorte, ce que tu montres bien, c'est que si on veut comprendre les opinions racistes qui peuvent être exprimées dans le cadre d'un entretien par ces électeurs ou électrices, il faut comprendre en fait toute la structure sociale racialisée, notamment du travail et de l'espace. Et c'est vrai que la position de classe ici qu'ils ont est intéressante, c'est-à-dire qu'ils sont assez souvent, en tout cas, on a l'impression hein, à la lecture que tes enquêtés, ils sont effectivement dans le haut des classes populaires ou dans les fractions stabilisées et qu'ils défendent quelque chose en termes de classe à partir de cette question des frontières raciales. Aussi parce qu'ils sont, tu le dis assez plusieurs fois dans le livre, ils n'ont pas les moyens en quelque sorte de leur volonté de se séparer des minorités, et en particulier de la minorité musulmane et plus largement des minorités issues de l'immigration postcoloniale ou non européenne plus largement. Est-ce que tu pourrais un peu voilà, développer cet aspect-là, notamment qui en fait invite à poser la question des frontières de classe et frontières raciales?
Oui, on retrouve la question de la position, au fond, de ces électeurs et de ces électrices, avec, en fait, le point de départ, c'est de dire, ok, d'un point de vue des inégalités de classe, encore actuellement, les électeurs, ils sont plutôt du côté des dominés. Mais en même temps, si on s'intéresse au prisme racial, c'est-à-dire aux inégalités ethno-raciales, là, ils sont plutôt du bon côté, si j'ose dire, de la ligne de couleur, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt en relation de pouvoir, et donc ils sont plutôt en position de dominant, étant donné qu'ils font partie du groupe majoritaire, au sein des inégalités ethno-raciales. Donc il y a cette position de dominé-dominant, en fait, qui me semblait comme point de départ intéressante. Et par ailleurs, ce qu'on remarque, c'est qu'au sein même des rapports sociaux de classe, effectivement, notamment moi, les électeurs électrices que j'ai côtoyés, c'est des personnes qui sont donc des dominés dominants, en quelque sorte, c'est-à-dire qui sont dans une situation sociale avec un statut quand même socio-professionnel stable. Ils sont propriétaires de leur logement souvent, ils ont un petit capital qu'ils ont peur de perdre par contre, mais ils ont un petit capital. Mais ce qu'on retrouve aussi beaucoup au fond à l'échelle nationale dans l'ensemble de l'électorat lepéniste, qui n'est jamais l'électorat le plus précaire. En fait, l'électorat le plus précaire, il s'abstient ou il vote à gauche. Mais les électorales, c'est souvent des classes populaires souvent établies ou bien des petites classes moyennes, comme je l'ai dit. Et donc, au sein même des rapports de classe, ils sont dans cette position de dominant-dominé. Et ce que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est qu'au sein même des rapports sociaux de race, ils sont aussi dans une position de dominant-dominé, au sens où ils sont dans une relation de pouvoir qui est fragilisée, et en tout cas qui est vécue comme menacée. Et effectivement, ce que j'écris, c'est qu'ils sont, ils font partie du groupe majoritaire, mais très souvent, et sur tout un ensemble d'aspects, ils sont aux frontières de ce groupe majoritaire. Et ils ont peur de tomber de l'autre côté, et justement de devenir minoritaire. Et ça, il me semble, c'est un affect très important, en fait, pour comprendre l'extrême droite de manière générale. Et en l'occurrence, c'est les personnes qui votent pour le parti de Marine Le Pen. C'est des personnes qui sont aux frontières du groupe majoritaire, qui ont très peur de passer de l'autre côté, qui ont très peur de devenir minoritaire. Et la phrase xénophobe « on n'est plus chez nous », elle le montre très très bien du point de vue résidentiel. Cette peur de devenir minoritaire, et du coup ça vous incite à être particulièrement attentif et favorable aux discours politiques qui vont dire cette frontière-là, que vous avez l'impression qu'elle est trop poreuse, on va la durcir. On va la durcir encore davantage que ce que vous promettent les autres hommes et femmes politiques. Et donc, c'est ce durcissement de la frontière dont on guette avec anxiété les porosités qui va particulièrement attirer en fait, ces électeurs et ces électrices. Et c'est c'est ce type d'affect, il me semble, que j'ai essayé d'étudier dans ce livre.
Il y a des cas assez paradigmatiques de cette situation où on a peur en quelque sorte de tomber dans, non pas simplement dans les classes les plus fragilisées, mais dans le groupe minoritaire. C'est ce cas d'un immigré brésilien, tu le dis, qui lui, quand il est arrivé notamment, a pu être en quelque sorte, de son point de vue, mêlé à ces minorités stigmatisées, issues de l'immigration postcoloniale française, en particulier maghrébine, et dont on voit bien la stratégie de mise à distance en quelque sorte, et qui est à l'œuvre vis-à-vis justement de ces minorités.
Oui, c'est un de mes chapitres que j'appelle vote blanc, pour essayer justement comme on parlerait de vote bourgeois ou de vote masculin, parler de vote blanc au sens avec cet enjeu d'inclure justement la question raciale dans l'étude des comportements politiques.
C'est un peu l'éléphant dans la pièce, par ailleurs, pour reprendre l'expression anglophone. C'est le truc dont on ne veut pas parler, parce que quand on décrit le vote RN, effectivement, on aborde souvent les variables lourdes, la profession, le diplôme, l'âge, le genre, etc. Mais la question de la position, de la position dans les rapports sociaux de race est presque jamais mentionnée, alors que en Angleterre, je sais pas, ou aux États-Unis, à l'évidence, cette question est toujours évoquée quand on parle, par exemple, de l'électorat trumpiste.
Ah oui, ça, c'est quelque chose sur lequel les études électorales, et notamment quantitatives, en fait, devraient peut-être évoluer. Parce que les variables lourdes, généralement, du vote, c'est la classe et la religion. Et par contre, ça, c'est une des hypothèses aussi que je fais dans l'ouvrage, c'est que cette variable religieuse, notamment dans un contexte de déchristianisation et de sécularisation importante de la société française, ça peut aussi marcher comme proxy, comme on dit, de la race. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on mesure actuellement ? Quand on mesure les différences de vote entre les personnes athées, les personnes de culture chrétienne et les personnes musulmanes. Est-ce qu'on ne mesure pas aussi une position sociale racialisée, plus ou moins modélisée par la religion ? Et effectivement, moi, je pense que ça serait parfois, après, il y a tout un enjeu de mesure qui est compliqué, mais parler de vote blanc, effectivement, ça pourrait être intéressant pour, encore une fois, aider à positionner et à définir ce qui, objectivement, caractérise cet électorat. Et après, donc ça, c'est sur la question, j'allais dire, statique, un peu des variables lourdes. Et moi, ce que j'essaie à partir de l'enquête de terrain, c'est essayer de comprendre des processus. Et quand je parle de vote blanc, j'essaie de montrer comment le vote RN peut être aussi une des manières d'entamer un processus de blanchiment, en quelque sorte, pour soi-même. Je parle de micro-politique de la race, avec l'idée que le vote RN, c'est la manifestation d'une prise de position au sein, justement, de ce que j'ai nommé tout à l'heure à la suite de Solène Brun, un espace social racialisé. Donc le vote RN comme prise de position au sein d'un espace social racialisé. Pourquoi ? Parce que le vote RN, ça vous permet aussi de vous conforter dans certaines positions raciales, ce qui peut être très important justement quand on a l'impression qu'elles sont menacées, voire vous rehausser au sein des hiérarchies sociales racialisées, en tout cas telles qu'elles sont perçues localement. Et effectivement, tu as cité cet exemple, donc c'est un électeur donc franco-brésilien, bon, qui par ailleurs est surveillant pénitentiaire, donc il a aussi tout un ensemble de, d'autres dispositions professionnelles qui l'amènent vers l'extrême droite. C'est une personne qui n'est pas très, très politisée, mais par contre qui se situe très clairement à l'extrême droite, qui en 2022 vote Éric Zemmour et qui ensuite vote Marine Le Pen, et qui a des propos très, très durs envers les personnes, notamment arabes et musulmanes, qu'il croise un peu dans l'espace local où il habite. Et effectivement, par contre, cet électeur, ce qu'il me dit, c'est qu'à son arrivée en France, il a vécu de manière ponctuelle, mais de manière très vive, du racisme. Avec, comme il le dit, avec la tête que j'ai, pour reprendre ses expressions, avec son accent, etc. Il a été assimilé à ces minorités du pire, un peu, et à ces minorités que sont les Arabes et les musulmans, auxquelles, justement, lui, il ne veut absolument pas être assimilé. Et là, ce qu'on voit, c'est que tout dans son discours manifeste une mise à distance de ces minorités du pire auxquelles vraiment on ne veut pas être associé.
Minorité du pire, c'est une expression de Norbert Elias, c'est ça ?
Absolument, que moi j'utilise du coup de manière en insistant un peu plus sur les questions raciales, mais avec vraiment cette idée de, en tout cas sur mon terrain, les minorités désignées comme turques, arabes ou musulmanes, et ou musulmanes, parce que parfois il n'y a pas forcément de différence qui est faite en toutes ces identités, sont clairement les minorités les plus stigmatisées, avec aussi de la homophobie qui est importante, mais bref. Ce sont ces types de minorités qui sont tout le temps évoquées de manière très négative dans les discours. Et lui, justement, on voit comment le vote RN, et le fait d'en parler, le fait d'en faire une fierté aussi, peut être c'est un instrument politique très intéressant pour les individus, pour justement, comme je le dis un peu ironiquement, montrer patte blanche, c'est-à-dire dire qu'on appartient vraiment au groupe majoritaire et être plus nationaliste que les nationaux, quoi. Et ce que je remarque aussi, c'est qu'on le retrouve aussi, cet enjeu, avec aussi des enjeux de classe. C'est-à-dire qu'il y a par exemple d'autres électeurs et électrices qui sont à la retraite maintenant, mais qui étaient des ouvriers et qui habitaient autre part, en France, mais qui, à la suite d'une délocalisation et d'une fermeture d'usine, il y a eu des migrations internes. C'est-à-dire qu'en fait, pour garder un salaire similaire dans la même boîte, ils ont dû déménager. Et donc, ils déménagent dans le sud-est, et avec une perte de ce que les sociologues appellent le capital d'autochtonie, c'est-à-dire la perte d'un ancrage local. Et eux, encore une fois, de manière ponctuelle, mais très, très vive et vécue intensément, ils vont être confrontés à la xénophobie régionale, on va dire. C'est-à-dire, on nous traite de bretons, on nous dit qu'on est des étrangers, etc. Et il y a une électrice qui me dit, on nous a dit qu'on arrivait, qu'on était des étrangers, alors que des vrais étrangers, pour citer, il y en a ici. Donc, encore une fois, on voit comment ça permet. C'est aussi un vote d'intégration, le vote RN, c'est-à-dire que ça permet de montrer qu'on est des vrais Français soi-même.
Oui, la nationalisation, en quelque sorte, par exemple, des descendants d'immigrés d'Europe du Sud, passe par la mise à distance d'immigrés qui ne sont pas nécessairement venus plus tard, parce que dans le cas des Algériens, ils sont venus souvent plus tôt d'ailleurs, par exemple, que les Portugais. Ça m'avait beaucoup frappé d'ailleurs que dans des groupes, y compris parfois violents d'extrême droite, il y a une proportion qui n'était pas négligeable du tout d'enfants d'immigrés d'Europe du Sud. Bon, ouais. Je pense notamment au groupe qui avait commis l'assassinat de Clément Méric, il y avait plusieurs descendants d'immigrés espagnols et portugais.
Et même si on prend Jordan Bardella, il y a une filiation migratoire italienne. Effectivement, c'est pour ça, mais c'est très important ce que tu dis. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un enjeu d'ancienneté nationale. Mmh. Il y a aussi une dimension, je pense, raciale. C'est différent de venir d'une immigration d'Europe du Sud que de venir d'une immigration, comme on dit, extra-européenne. Et effectivement, en fait, moi, dans mon livre, j'ai toujours mis « immigré » et « étranger » entre guillemets pour bien inciter sur le fait que, au fond, ce que mes enquêtés appellent des immigrés, ça désigne jamais, ou des étrangers, ça désigne jamais les immigrés et les étrangers au sens strict de la nationalité, de l'origine. C'est souvent des personnes qui sont dites issues de l'immigration, mais en fait, parfois, depuis trois générations, voire plus. Et en fait, ce qui est désigné, ce sont les minorités ethno-raciales. Ce qui, d'ailleurs, est important aussi dans la manière dont on fait l'analyse de ce qui motive ces électeurs et ces électrices. Par exemple, le thème de la préférence nationale du Rassemblement national, c'est une mesure, c'est un ensemble de mesures qui se base sur la stricte distinction nationale-étranger et donc qui est défendable publiquement, on va dire, dans les discours. Mais en fait, moi, sur mon terrain, la préférence nationale, elle est reçue de manière racialisée. C'est-à-dire que ce qui est compris, c'est que le RN va être de leur côté, c'est-à-dire du côté des vrais Français, c'est-à-dire en fait du côté des personnes appartenant au groupe majoritaire, et non du côté des minorités ethno-raciales. Et idem pour tous les sondages qui insistent sur le fait que l'immigration, par exemple, serait une motivation importante du vote RN. Encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on appelle l'immigration ? Il y a tout un ensemble aussi de sondages qui insistent sur le fait que, par exemple, donc il y a 90% de l'électorat lepéniste qui juge qu'il y a trop d'immigrés en France. Mmh. On tombe à 50% pour l'électorat en moyenne. Mais quand les électeurs répondent à cette question, il y a 90% des électeurs RN qui trouvent qu'il y a trop d'immigrés en France. Est-ce qu'ils trouvent qu'il y a trop d'immigrés ou est-ce qu'ils trouvent qu'il y a trop de minorités ethno-raciales, de noirs et d'arabes en France ? C'est ça qu'il faut se poser comme question.
Oui, c'est vrai qu'en termes de discours, la préférence nationale, en fait, fonctionne comme préférence raciale, si on dit les choses dans une formule plus ramassée. Et c'est vrai dans le discours des extrêmes droites, souvent de manière, c'est jamais dit explicitement, mais je sais pas, moi je me souviens d'un discours de Marine Le Pen disant combien de Mohamed Merah dans les bateaux et les avions qui arrivent chaque jour plein d'immigrés. Bon, Mohamed Merah n'est pas un immigré, c'est un enfant d'immigré qui est né en France. Et je trouve que ça dit bien quelle est la représentation qui est véhiculée, mais qui est présente aussi dans une bonne partie de la base électorale du FNRN, mais qui est véhiculée par l'extrême droite, et y compris sur la catégorie étranger, qui n'est pas jamais une catégorie strictement juridique pour eux, mais une catégorie proprement ethno-raciale, qui inclut ceux qui vont être perçus éternellement comme étrangers au corps social, au corps national, et national-racial en quelque sorte, français, y compris l'appellation français. Enfin, qu'est-ce qu'un...
Mais j'ai aussi mis français entre guillemets et en minuscules dans l'ouvrage. Oui, en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve très bien dans les entretiens ordinaires. C'est-à-dire que lorsque la personne, au début de l'entretien, veut être un peu polie et pas utiliser de mots trop crus, bah voilà, on va parler des maghrébins, des immigrés, des étrangers, mais ça désigne toujours autre chose. Et lorsqu'on va dire les Français, les vrais Français, on va s'auto-désigner ainsi, et par là, on va désigner les personnes blanches, en fait.
On va s'arrêter là. Merci beaucoup, Félicien Faury, pour ce premier volet de notre épisode autour de ton livre « Des électeurs ordinaires, enquête sur la normalisation de l'extrême droite ». On se retrouve pour le deuxième volet très bientôt, où on va développer toutes ces dimensions du vote pour le Front National devenu Rassemblement National, et où par ailleurs on se posera quelques questions autour de ce que peut ou ce que pourrait la gauche par rapport à ces franges de l'électorat. À bientôt.
O povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade. Spec.